Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage du vendredi, l'équipée sauvage qui regarde dans le rétro pour se remémorer les moments les plus hauts en couleur de l'émission. C'est donc reparti pour une nouvelle heure au galop sur la plaine somptueuse du Savoie. Chevauchant à mes côtés, la douce et précieuse Eva Roque, ainsi qu'un invité d'honneur généralement très sympathique, comme par exemple le chef Olivier Rollinger, qui a réussi à redonner l'envie de cuisiner à Eva.
Demain, je fais un crumble framboise.
Oui, mais c'est pas la saison.
Aujourd'hui, espérons qu'Éric Orsenna soit moins cassant avec la pauvrine. Éric Orsenna, ensemble, on continue de parler de votre nouveau roman « Brisé en nous, la mer gelée », un livre qui, il faut le dire, n'est pas climato-sceptique, hein, ça n'a rien à voir, c'est un livre qui parle d'amour et pas de réchauffement climatique. On continue d'en parler et plus sérieusement, juste le temps de vous présenter, Éric Orsenna, nos deux derniers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Par ordre de sex-appeal croissant, à ma gauche, il est notre expert sport, mais aussi un grand amoureux de littérature. D'ailleurs, dans chacune de ses chroniques, il offre à l'oreille attentive de subtils jeux de mots.
Kimia Alizadeh, elle a quitté l'Iran parce qu'elle refuse désormais de représenter son pays aux prochains Jeux Olympiques. Elle a eu de la fuite dans les idées.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Cette bonjour
passion
monsieur.
Des
c'est
mots,
très joli.
Vous allez la partager avec nous aujourd'hui en combinant. Il estime même que c'était pas trop mal. Je ne sais pas si c'est à vous de le dire. Oui, aujourd'hui, vrai. Vous combinez sport et langue française. Comment?
Alors, bah, tenez quelques exemples. Bille en tête, épater la galerie, jeter l'éponge. Il y a un point commun à ces expressions très courantes de notre langue française. Elles viennent toutes du monde du sport. Elles sont originaires du monde du sport. Je vous propose de vous raconter quelques-unes de ces expressions. Comment le sport a permis à notre langue française de fleurir.
Et puis surtout, on va pouvoir briller dans les dîners. Moi, j'aime bien. Ensuite, l'origine des expressions. À ses côtés, Éric Orsenna, plus qu'une femme, une rescapée. En effet, notre nouvelle chroniqueuse, la vétérinaire Farah Kessri, que nous sommes ravis d'accueillir, revient de très loin. Elle revient de là où normalement on ne revient pas. Elle a coécrit un livre avec Michel Simès. Comment expliquer ça à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Michel Simès? Eh bien, le mieux, c'est de réécouter un extrait de la fois où vous étiez venus tous les deux parler de votre livre.
Quand on voit ce que les vétos font aux vaches, j'aimerais pas me faire examiner la prostate par un vétérinaire.
Je suis sûre que je suis plus délicate que vous pour un toucher rectal. Hein.
Eh ben, faudrait qu'on essaye.
Bonjour Farah Kessri.
Bonjour à tous.
Les téléspectateurs du Journal de la Santé sur France 5 vous connaissent bien. Vous rejoignez donc la bande de l'équipée sauvage. Alors attention, ici vous êtes en compétition. Avec quel sujet allez-vous tenter de l'emporter?
Eh bien, je vais vous parler de l'incroyable ingéniosité des espèces animales et leur capacité à survivre à des températures extrêmes. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement malin. Et bien sûr, c'est en rapport avec le livre de Monsieur Orsenna, puisqu'on parle aussi de l'Alaska.
On va parler de l'Alaska. Comment les animaux font-ils pour ne pas avoir glagla? Mais j'aime bien utiliser les termes techniques. Ces expressions françaises qui viennent du monde du sport, qui coiffera l'autre au poteau? La réponse tombera juste avant 18h. Vous votez via Twitter. En attendant, je me tourne vers notre invité d'honneur. Qui est pour vous, Éric Orsenna? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Non, ici, nos invités ont droit à un micro-trot-trash. C'est pareil, mais en moins cher. On n'a pas payé de monteur. On a tout laissé en vrac.
Éric Orsenna. Ah, il est connu, lui, c'est qui déjà? Un académicien.
Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de bonté dans les yeux.
Il est brun, il est pas mal.
Un que je trouvais beau, c'était Dormesson.
Très curieux, très classique, très belle plume.
Très centriste.
Hein. Toi, je fais de la politique, moi je fais un littéraire. Littérature.
Éric Orsenna.
C'est quelqu'un qui a du talent.
Ancien conseiller politique de François Mitterrand.
Eh bien, Orsenna, il pilote de Formule 1.
Il est... Alors, Orsenna n'est pas encore mort, mais Ayrton Senna est mort, lui.
C'est un écrivain qui écrit très bien. Il avait écrit une histoire d'amour avec la grammaire.
Très gentil, très aimable, très bien éduqué, très serviable.
Il a une espèce de couronne de cheveux blancs et il a des lunettes écailles.
Très agréable, ça j'en suis sûre.
Beaucoup d'infos hein, dans ce micro-trottage.
Voilà, vous avez été coureur automobile.
Très sympa, très centriste et champion de Formule 1. Ça, c'est vrai que bon, on jette un voile pudique sur cette partie de votre carrière. Vous êtes aussi entrepreneur, Éric Orsenna. Vous avez notamment investi dans des startups liées au développement durable. Vous avez été aussi conseiller de François Mitterrand, ça les gens s'en souviennent. Est-ce que la politique reste une part importante de votre vie?
La politique, pas en tant que métier, mais en tant que
intérêt, citoyen,
comme passion, en tant que lieu où il faut proposer des solutions. Donc je suis par exemple allié avec les maires de France, parce que dans des tas de villes, on propose des tas de choses.
Et puis ils peuvent agir concrètement au niveau local.
C'est quand on me confie une mission, j'essaye de la remplir le mieux possible, par exemple en ouvrant plus les bibliothèques et les médiathèques.
Oui, on va en parler, ça.
Voilà, mais je n'ai pas voulu exercer un rôle de responsabilité comme ministre, parce que je...
On vous l'a proposé, vous l'a proposé souvent, la culture
mais, souvent, pas seulement la culture, mais souvent, mais je ne serais pas... je ne serais pas bon parce que je veux garder ma liberté, ce qui est un manque de générosité aussi, et que si je peux être très, très impliqué dans une action, au bout d'un moment, j'ai envie de partir, de naviguer, de avoir cette liberté. Vous voyez, donc,
si je peux me permettre, vous me rappelez Nicolas Hulot, avant de dire oui, pendant des années, il a dit non, je ne veux pas, parce que je veux garder ma liberté, et un jour, il a fini par se dire, il faut que je mette les mains dans le cambouis, j'y vais. On sait ce qui s'est passé après.
Oui, mais... justement, j'ai pensé exactement la même chose, vous voyez. Et donc, cet axe-là, par exemple, j'ai cet immense honneur, puisque je suis au fauteuil de Louis Pasteur, à l'Académie française, et donc je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ambassadeur de l'Institut Pasteur, ça veut dire essayer de les aider à trouver un peu plus d'argent, puisque le budget de l'Institut Pasteur, c'est au tiers ce que donnent les gens. Et la deuxième chose qui me passionne, c'est d'expliquer ce qu'ils font. Donc je vais de labo en labo de Pasteur, et j'essaye d'expliquer de façon la plus simple possible ce que c'est que la lutte contre l'antibiorésistance, que ce c'est la lutte entre les maladies inflammatoires et puis les maladies métaboliques comme le cancer. Donc vous voyez ce genre de questions. Comme moi je suis un prof ou un élève perpétuel, j'adore me mettre au service, vous voyez, être au service comme ça. Et puis après, on ne me voit plus pendant 3-4 mois, on m'appelle, est-ce que tu es disponible ? Oui, et hop, je repars.
Et vous repartez. Il est toujours par Mons et par Vaud. Nos chroniqueurs ont tous lu et adoré son dernier roman, surtout Jérôme Lacroix qui m'a avoué l'avoir dévoré.
Accompagné de pâtés, de vin blanc, de crevettes.
Éric Orsenna est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Paris Hilton, malgré toutes ses qualités, a-t-elle raison de mettre une doudoune Dolce Gabbana en plume d'oie à Elvis, son teckel nain? Ou bien les animaux n'ont-ils pas besoin de doudoune Dolce Gabbana pour affronter les primats de l'hiver? La vétérinaire Farah Kessri nous dévoile la biologie étonnante des animaux. Eva, un commentaire constructif à ce stade?
Un chat te juge, un chien te fait la fête.
Ouais, merci quand même. Plus d'infos avec une vraie veto, juste après Major Lazer et Marcus Mumford. Lay your hand on me sur Europe.
To the touch, you cannot chase this ghost away, and this too shall pass, this too shall pass, it won't always be the same, and every single scar that you claim is a stone in the path to this place, and every single choice that you made has led you this way, so lay your head. Lay your head on me, lay your head.
your hand on me. Vous savez ce que ça signifie, Eva ?
Pas du tout, j'attends de vos lumières. Ouais.
Mais vous vous doutez de ce que ça veut dire ? Ça veut dire « mets ta main sur moi, mon cochon
oh !»
C'était
là.
Major Lazer et Marcus Mumford sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Fermez les yeux et imaginez Eric Orsenna galopant à bride rabattue avec Eva Rock derrière lui en Amazon qui s'exclame. Bienvenue dans l'équipe sauvage. Deux heures dédiées à votre bonne humeur et à votre culture générale, en présence d'un invité d'honneur aujourd'hui, donc l'immense Eric Orsenna. Eric, on continue de parler de votre nouveau roman « Briser en nous la mer gelée ». Mais vous le savez, la compétition n'attend pas. L'heure est venue d'écouter notre troisième candidate à la couronne de chroniqueur du jour, une amoureuse de la nature, des animaux, une vétérinaire qui a tout de suite compris en écoutant notre émission avec Clovis Cornillac l'autre jour, Clovis qui incarnait justement un veto dans un film, qu'elle et nous, on était sur la même longueur d'onde, celle du respect du vivant et de la tendresse pour l'animal. Souvenez-vous.
Elle est dingue la scène du volage.
Ouais, elle est très belle.
Parce que
elle l'a vraiment fait, ouais.
Elle a vraiment fait.
Ouais, il y avait une véleuse à côté.
Oui, je m'imagine bien.
Mais il n'empêche qu'elle le fait vraiment, ouais. Ah ouais, elle lutte, et puis c'est vrai, elle l'a vraiment accouché, ce fait que le veau, c'est le premier regard qu'il a eu, c'est sur elle.
Et elle l'a gardé ?
Non, mais il était délicieux, et c'est vrai que.
Et oui, Sarah, ici, on adore les animaux, surtout avec une pincée de gros sel. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ces facultés étonnantes qu'ont les animaux pour se protéger du froid. Ils ont tout simplement plus de poils que nous, non ? C'est pas compliqué ?
Oui, c'est vrai, ça fait partie de leur stratégie. Et c'est vrai que si l'homme a conquis tous les écosystèmes, ce sont quand même les espèces polaires qui sont les championnes pour résister aux températures extrêmes. Je vous rappelle qu'au niveau des pôles, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés, moins 50 hein, en hiver. Et vous avez des vents qui vont souffler à 100, 200 km/h. Et bien, pour résister et survivre, il faut vraiment avoir des bonnes stratégies.
Et c'est quoi comme stratégie ?
Et bien, si on prend l'exemple des manchots, hein, les manchots empereurs qui sont plutôt connus par le grand public, eh bien, eux, ils vont pratiquer la thermorégulation sociale. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de se tenir au chaud en restant groupés. Et c'est efficace.
C'est ce qu'on fait dans l'équipe sauvage.
Absolument, absolument. Mais eux, c'est encore plus efficace puisque à l'intérieur du groupe, vous allez avoir des températures qui vont atteindre 35 degrés, alors qu'à l'extérieur du cercle, bah, vous êtes à moins 35 degrés.
Mais, qui est au centre du cercle ?
Les
manchots sont sur les bords, ils sont fait avoir. Hein.
Bah non, puisqu'ils intervertissent leur place, c'est à tour de rôle, chacun pense à l'autre. Donc ça marche très très bien. Et bien sûr, vous avez parlé du pelage, mais là pour les oiseaux, parce que ce sont des oiseaux, hein, les manchots, vous avez une couche de graisse qui va servir d'énergie, et vous avez bien sûr toutes les plumes qui vont s'entrelacer et former un isolant thermique. Mais leur super astuce se trouve au niveau des pattes. Ils ont un radiateur, une sorte de radiateur, c'est pas vraiment le radiateur électrique hein, que vous imaginez, bien sûr, c'est un échangeur de chaleur entre les artères et les veines, et ça leur permet d'avoir toujours 2 degrés de température supplémentaire par rapport à l'extérieur. Et c'est très important d'avoir chaud aux pattes quand on est un manchot, parce que
c'est le phrase, papa... Pas. C'est vrai que je vais vous la sortir celle-là.
Je sais. Parce que le papa manchot, eh bien c'est lui
le
qui
papa
couve...
manchot, le papa manchot.
C'est lui qui va couver l'œuf pendant que la femelle est partie reprendre des forces.
Sarah, vous êtes partie sur des très bonnes bases dans cette chronique. La grenouille des bois de l'Alaska qui gèle en hiver.
Absolument, les 2/3 de l'eau de son corps se transforment en glace. Et contrairement à d'autres espèces qui, bon, tout simplement vont mourir à cause du gel, parce que vous savez, ce sont la glace, quand l'eau se transforme en glace, il y a la formation de cristaux. Les cristaux, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement plein de pics qui vont aller détruire la cellule. Elles vont l'exploser. Eh bien, cette grenouille, au lieu de mourir explosée par tous ces cristaux, eh bien, elle va produire 5 fois plus de glucose, et ce sucre va servir d'antigel, va protéger toutes les cellules de son corps.
Elle n'a pas de diabète.
Elle n'a pas de diabète parce qu'elle a un super système de régulation contrairement au nôtre. Et en plus, à la fin de l'hiver, au printemps, la glace va fondre, l'eau va réhydrater les cellules, la température va remonter, le glucose va être à nouveau disponible, et ce glucose, ce sucre, va servir d'énergie, parce que je vous rappelle qu'à la saison le printemps, c'est la saison des amours, et elle a intérêt à sauter partout.
Ah,
si je peux le dire.
C'est vrai. Et il y a des espèces qui hibernent, comme les ours.
Absolument. Alors, sur les 8 espèces d'ours, vous avez seul l'ours noir, l'ours brun et la femelle ours blanc qui vont hiberner. Et c'est pas vraiment le terme hiberner, on utilise plutôt le terme hiverner, parce que c'est la marmotte qui hiberne. Sa température tombe de 38 degrés à 5 degrés, alors que les ours passent de 38 à 32 degrés environ. Ils ont besoin de garder un seuil de vigilance au cas où il y aurait du danger. Et au moment où ils vont donc hivernés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont se mettre dans leur tanière, se rouler en boule pour garder la chaleur. Qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, ils vont arrêter de manger, ils vont arrêter de boire, ils ne vont plus uriner, ils vont plus déféquer, leur transit intestinal s'arrête pratiquement.
Il y a un bouchon. C'est hibernatus, quoi.
Exactement. Il y a un bouchon fécal qui est à l'extrémité du rectum pour que, bien sûr, leur tanière reste propre. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que leurs battements cardiaques vont ralentir. Ils passent de 60 battements par minute à 8 battements. Leur respiration est divisée par deux. Tout se ralentit, consomme moins d'oxygène. Et ce qui est extraordinaire, ce qui fascine les chercheurs, c'est que tout simplement, on se demande comment ils font. Parce que si on arrive à les copier, eh bien, on pourra peut-être envoyer des astronautes dans les voyages interplanétaires.
Bah oui, dans les films de science-fiction, on voit déjà ça.
Ils ne perdent pas d'os, ils ne perdent pas de muscles. Ils n'ont pas de problème de cholestérol alors qu'ils ont mangé comme des malades juste avant d'entrer en hibernation. C'est quand même hallucinant.
Eh bien, et le seul d'entre nous qui connaîtra ça, puisqu'il est immortel, c'est Eric Orsenna. Le voyage sur Mars, nous, hélas, on ne sera plus là.
Mais vous avez vu un ours en Alaska.
C'est magnifique. Ah bah, j'ai vu plein d'ours, parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Arctique, parce que je vous rappelle que Arctique, ça vient du grec arctos, qui veut dire ours, et Antarctique, c'est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Donc, il y a des ours, vous comprenez. Et donc, moi, j'ai vu ça, et j'ai eu un professeur d'ours, qui est Marie Manceau, chercheuse au Collège de France, qui m'a raconté des trucs incroyables, exactement ce que vous dites. Par exemple, la vraie couleur de l'ours blanc.
Ah, on avait prévu d'en parler.
Oui, parce que la couleur de l'ours blanc, à votre avis, de la peau de l'ours blanc, bah, elle est pas blanche.
Ah, bah non,
comme
non,
vient de dire Eric Orsenna, elle est noire.
Pourquoi capter le maximum du rayonnement. Et pourquoi l'ours blanc a une tête petite par rapport à un corps énorme? C'est pour moins dépenser d'énergie, parce que c'est par la tête qu'on dépense énormément d'énergie.
Nous, on perd 10%
exactement.
De notre chaleur.
Est-ce que, voilà, et moi qui suis chaud, je perds 50%. Et pourquoi il a des pattes si grandes comme ça? C'est pour pouvoir mieux nager et passer en répartissant son poids sur une glace qui peut être instable.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Bravo, vous êtes mon héros.
Oui, bon, calmez-vous, Farah, vous allez peut-être avoir les points, mais n'en faites pas trop non plus. Oh, merci, Farah Kestri, le passionnant Eric Orsenna. Reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous évitez, les amis, une énième dispute conjugale devant l'écran de Netflix et consorts. Eva Roff, notre spécialiste média, va vous faire ses recommandations, ce qui vous permettra d'avoir le dernier mot dans la dispute en disant à votre conjoint « Mais c'est Eva Roff qui l'a dit !» Argument massue, s'il en est. Mais tiens, Eva, puisque vous êtes spécialiste média, un mot quand même de notre émission.
Je ne comprends toujours pas l'engouement pour cette émission.
Ah oui, ah bah, indépendante jusqu'au bout, hein. Les conseils télé impartiaux d'Eva arrivent dans une minute sur Europe.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h-18h. L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipé sauvage. 2 heures d'allégresse informative pour étoffer votre culture G tout en gainant vos zygomatiques en compagnie d'un invité d'honneur pour qui j'ai modifié mon texte ce matin. J'avais écrit « booster votre culture G ». Puis j'ai entendu sa petite voix qui me disait
« T'es fou de ma gueule ? Ça va bien les conneries maintenant !»
C'est pourquoi j'ai remplacé par le terme « étoffer ». Oui, Eric Orsenna de l'Académie française est notre invité cet après-midi. Est-ce que vous êtes très conservateur sur l'évolution de la langue française? Les mots qui viennent de l'anglais, vous...
La langue, elle est vivante.
Ah donc, vous acceptez plutôt?
Oui, bien sûr, j'accepte. Ce que je n'aime pas, en tout cas, ce que je trouve triste, c'est qu'on ne utilise pas ce trésor magnifique qu'est la langue. Et donc, par exemple, on diminue le nombre de mots. Vous voyez, on dit on va simplifier. Mais simplifier, ça veut dire appauvrir. Ça veut dire, je t'aime. Je veux dire, d'accord.
Alors qu'il y a 1000 mots, par
exemple. Ma seule chance, parce que j'ai un physique pas formidable. Soyons réalistes. Ma seule chance, c'est que quand on dit je t'aime, je commence par je t'aime, et puis après j'ai des variations. Alors c'est une dame qui m'intéressait. Elle dit bon, d'accord, il a aucun intérêt. Et puis elle a un super beau mec, mais qui quand il lui répète sans arrêt je t'aime, il a le temps, bah, au bout d'un moment, elle préfère un mec nettement moins beau, mais qui sait moduler la variation.
Face à vous, Eric Orsenna, un monument de la littérature niçoise. Pilier des éditions Flammarion.
Oh.
D'autres chefs-d'œuvre, on citera notamment Journal d'une jeune fille dérangée, À la recherche du tampon perdu, ou encore évidemment Prix Féminin Yoli 2012, Autant on emporte le pan bagnard. Entre deux romans, Eva Rock est également notre spécialiste média. Qu'est-ce que vous nous conseillez sur les écrans?
Eh bien écoutez, la série débute sur 7h.
Ça, c'est une grosse comédie, ça.
Pas du tout. Un homme promène son chien dans une forêt. Alors, d'après vous, est-ce qu'on est plutôt dans
la
balade bucolique ou on est dans le drame à venir? Alors, un indice. La fiction est intitulée The Outsider et c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. D'après vous,
bah, Mais oui,
évidemment. Le drame, c'est l'horreur même. C'est l'horreur qui est au bout du chemin. Ah. On va retrouver le corps mutilé d'un enfant.
Ah non.
Et en quelques heures, écoutez, preuves et témoignages vont s'accumuler et désignent un seul homme. Il s'appelle Terry, c'est l'entraîneur de l'équipe de baseball de la ville. L'homme est arrêté, mais nous en sommes qu'à la moitié du premier épisode. Donc là, on se dit, il y a un loup. Parce que si toute l'intrigue est déjà... Non, mais pas dans la forêt, que vous êtes bête. Tout est déjà trouvé. Si tout est déjà trouvé à la moitié du premier épisode, bon.
Il y en a combien d'épisodes? C'est une mini-série ou...
Dix épisodes. Eh bien, en fait, une vidéosurveillance va prouver que Terry se trouvait à 100 km du lieu du crime au moment des faits. Et pourtant, les empreintes de Terry sont bien présentes sur le corps du garçon. Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est machiavélique.
Eh bien, vous allez vous accrocher parce que les révélations et les rebondissements vont s'enchaîner. C'est un thriller avec une once de fantastique qui est propre à Stephen King, vous le savez bien. Mais ça n'arrive que très tard dans la série. La série est absolument fascinante. Elle est effrayante, mais fascinante, avec une réalisation absolument remarquable d'efficacité et d'esthétisme. Aucune fausse note du côté des acteurs, mais évidemment, c'est le scénario qui est un vrai bijou. 10 épisodes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est sur OCS et ça s'appelle donc The Outsider.
Merci Eva, c'était 17 minutes de gagné.
Europe 1.
À suivre, notre dernier journaliste en compétition s'échauffe. Jérôme Lacroix aime jouer avec la langue française. Il aime les mots, les bons mots et le sport. Son dada, les jeux de mots autour du sport.
Le président de la fédération, Bernard Laporte, ne ferme pas la porte.
C'est pas votre meilleure, celle-ci. Pour des résultats à l'image des sportifs français en danse, justement, quelle est l'origine de ces expressions bien connues? Coiffer au poteau, tomber à pic, épater la galerie ou encore jeter l'éponge? Elles viennent toutes du monde du sport. Jérôme Lacroix les décrypte pour nous, juste après Rose sur Europe 1. Une bière, un croissant.
Les fringues d'hier sur le dos, un déglingue à mer sous ma peau. J'ai pas su faire rentrer tôt, pas su me taire. Bonheur éphémère sous mon front, flinguant des cœurs sous le menton. Sous les réverbères, prendre mon temps. Une bière, un croissant, j'y pense pas souvent. Je pense comme on se prend à rêver d'ailleurs, de jour. Pour pas grand chose, l'enfer qui règne, qui prend la peau. C'est une baigne si je me repose. À temps partiel, je suis vivante. Je me rappelle le reste du temps que je fais semblant, que je fais comme celle qui pense pas souvent, qui pense comme on se prend à rêver d'ailleurs, de jour meilleur. J'y penserai plus, promis. J'y penserai plus si tu me dis que je suis la femme de ta vie. Je suis la femme. Sans les regards posés sur moi, c'est sûrement une impression, je sais pas. Mes lunettes noires ne suffisent pas à me cacher de mon propre regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide. Mais mon instinct de subir est trop fort, il faut que je m'inflige encore. Mais j'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend à rêver d'ailleurs, de jour. Sur le sol, comme la dernière fois je vole, mon sommeil et je frôle l'éternel.
Une bière, un croissant, j'aurais rajouté personnellement, c'est parti mon kiki, c'était Rose sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est la dernière ligne droite pour nos trépidants journalistes. Un seul sera élu chroniqueur du jour. L'équipe est sauvage entre dans sa phase décisive. Compétition, vous le savez, toujours chapeautée par un invité d'honneur. Aujourd'hui, une référence dans le monde de la littérature, une plume alerte qui, depuis 1974, porte haut l'étendard de notre belle langue française. Vous voyez évidemment de qui je veux parler, Jérôme.
Chantal Goya.
Et non, hélas, non, Chantal n'était pas disponible. C'est l'écrivain Éric Orsenna qui l'a remplacé au pied levé. Et sans atteindre les cimes stylistiques de Chantal Goya, force est d'admettre qu'il se débrouille pas mal. Votre dernier roman s'intitule « Briser en nous la mer gelée ». Enfin, je suis éberlué devant les conneries que j'ai. Il nous interroge sur notre capacité à aimer et à se re-aimer, si tant est qu'on puisse le dire. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, Jérôme Lacroix. Éric Orsenna, à ce stade, si vous deviez faire un premier bilan de notre émission...
Comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Merci. Eh bien, on vous écoute, Jérôme, et bonne chance.
Oui, justement, tu as parlé de chance. Vous noterez que je ne recule devant aucun défi. Oui. Celui de cet après-midi, Éric Orsenna, il sera réussi. Si bon sang, j'arrive à apprendre quelque chose sur la langue française, un académicien, vous serez d'accord.
Alors,
je vous raconte qu'un jour, j'ai foncé bille en tête pour épater la galerie, mais j'ai dû jeter l'éponge. Voilà, trois expressions dans cette phrase. Et elles nous viennent toutes du monde du sport. Je vous propose de vous raconter maintenant comment le sport a parfois façonné notre langue française. Alors, je vous parlais d'épater la galerie. Ce qui est marrant, c'est de constater qu'il y a plusieurs de ces expressions courantes qui proviennent du jeu de paume. Vous savez, l'ancêtre du tennis qu'on pratique depuis des siècles et qu'on pratique d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Épater la galerie.
Ah, moi, je pensais épater la galerie des glaces, moi, je pensais.
Vous allez l'entendre. Le jeu de paume, c'était d'abord un sport extérieur. À partir du 14e siècle, on s'est dit, tiens, pourquoi on jouerait pas en intérieur? C'est alors qu'au bord des terrains, on a construit, donc, dans les salles, des sortes de petits couloirs sur le côté du terrain pour que s'installent les spectateurs, un peu comme une tribune. On l'a surmonté d'un toit pour protéger le public, parce que les balles s'affusent, alors pour éviter qu'ils se les prennent dessus, on a monté des toits. Ça formait donc comme une galerie, alors quand on était fort au jeu de paume, on épatait la galerie, voilà d'où ça vient. Il y a aussi, par exemple, rester sur le carreau. On connaît cette expression. La surface des terrains des jeux de paume, avant, elle était ornée, décorée de carreaux. Alors quand un joueur, par exemple, se cassait la figure, ou alors perdait, on disait qu'il restait sur le carreau, tout simplement.
Alors, je ne savais pas que ça venait.
Vous saviez tout ça, Éric Orsenna ?
Je savais les galeries, le carreau, je ne savais pas.
Bon, alors,
je savais les galeries, parce que j'ai beaucoup vécu à Versailles. Et donc, c'était des questions. Mais c'est passionnant. Je dirai après.
J'en ai d'autres. Citons pourquoi pas jeu demain, jeu de vilain. On connaît ça. Au jeu de paume. Les plus fortunés jouaient équipés d'un gant de cuir, puis un peu plus tard d'une raquette. Mais les plus pauvres, qualifiés ici de vilains, c'est pas très beau, ils jouaient à main nue. Jeu de main, jeu de vilain.
Et alors, vous nous racontez aussi l'origine de jeter l'éponge. Ça vient de la boxe.
Oui, alors cette éponge, pourquoi l'éponge? C'est celle utilisée par les entraîneurs de boxe entre chaque round pour nettoyer la sueur ou le sang, parfois, de leur poulain. Et quand le combattant n'en pouvait plus, l'entraîneur il jetait l'éponge sur le ring en signe d'abandon. Il abandonne, on jette l'éponge. L'expression « entrer en lice », par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces lices? On repart ici, là, autant des chevaliers, des combats de chevaliers. En fait, les lices, c'était des barrières installées pour matérialiser les bords de l'arène dans laquelle se tenaient ces joutes. On entrait en lice, on entrait en compétition. Il y a aussi foncer bille en tête, par exemple.
Alors, on parle de
bille.
Quoi, oui.
Alors, en fait, c'est la boule de billard plutôt que la bille. C'était un coup spécifique au billard. C'est un coup, ça existe toujours, qui consiste à donner un coup très sec, très vif avec la canne. Donc, on part bille en tête, on part à fond. Je finis avec une dernière parce que j'ai beaucoup de tendresse pour celle-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé très mignonne cette histoire. Elle nous vient d'un jeu d'adresse pratiqué aux alentours du 15e siècle. Je vais la faire deviner, tenez cette expression.
Ah bon,
on traçait un cercle au sol. On y mettait à l'intérieur tout un tas d'épingles, beaucoup d'épingles. Le but était de faire sortir ces épingles du cercle en les poussant, en les tirant, en jetant un caillou au milieu de cet amas d'épingles.
Oui.
C'est un peu un jeu entre le Chamboultou et le Mikado. Ça a donné tirer
son épingle du jeu.
Génial.
Voilà. Jérôme, vous m'avez écrit plein de trucs.
Alors, c'est ça la langue française. Comprenez, c'est que c'est un trésor collectif qui a été inventé depuis 12 ou 13 siècles sur des bases de langues antérieures, et qui a été inventé par tout le monde. C'est-à-dire, c'est les brefs de comptoir, mais c'est les rois, mais c'est les poètes, mais c'est les gangsters, mais vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et quand vous prenez, on me demande souvent dans l'île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez comme livre, c'est évidemment le dictionnaire.
Oui.
Parce que le dictionnaire, c'est toutes les histoires possibles, et en même temps, chaque mot est une histoire. Deux exemples. Maintenant, pourquoi ça veut dire tout de suite? Parce que main, tenant. On tient la main qui tient. main qui tient.
Oui, d'accord.
Et quand on dit hippopotame, on reprend l'origine grecque, hippo, cheval, potamos, le fleuve. Qu'est-ce qu'un hippopotame ? C'est le cheval du fleuve. Et moi, je me souviens, je dis, on dit Philippe. Et je vais dans les classes, je leur dis, mais pourquoi tu t'appelles Philippe ? Pourquoi t'as laissé ton cheval à l'entrée ? Il dit, pourquoi ? Quel rapport avec le cheval ? Ben, Philippe, ça veut dire celui, Phil, qui aime le cheval. Phil, j'aime, comme philanthropie. Et le cheval,
et combien,
il pose.
Et là, combien voilà. De Philippe.
Donc c'est ça. Alors ils sont des gamins. Bien. Imaginez, en CM1, CM2, ils disent « Ah bon, oh, Philippe ?» Alors après, ils reviennent, le prof me dit « Tu sais, il cherche toujours son cheval. » Donc vous voyez, c'est ça. C'est pour la rendre vivante. Elle est vivante. C'est pas un truc n'importe quoi. Qu'on... Vous voyez, c'est, si vous prenez du soin, vous retrouvez énormément de plaisir. C'est l'indifférence qui tue. Vous voyez, c'est ça. C'est pas la curiosité qui en vient défaut. Le pire, c'est l'indifférence.
Jérôme Lacroix. Jérôme Lacroix, on lui dit merci. Aura-t-il tiré son épingle du jeu avec cette chronique ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, la première fois que j'ai croisé Olivier Pouls, l'homme qui devait devenir notre expert gastronomique, c'était dans une ruelle mal éclairée. Il se baladait en aiguisant un couteau japonais. J'ai voulu changer de trottoir, mais il s'est planté devant moi et m'a dit
« T'as devant toi le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. »
C'est le début d'une amitié qui dure depuis 10 ans. Et si je l'aime tant, c'est que chaque jour, il nous livre une recette de dernière minute facile et goûteuse, délice in extremis, à suivre dans l'équipe sauvage.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe sauvage. Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Qui rentrera chez lui la tête haute ? Qui, au contraire, s'enfermera dans les sanitaires pour chouiner lamentablement ? Le dénouement approche dans l'équipée sauvage, la grande compète des meilleurs journalistes d'Europe 1. Sous l'œil complice mais torve de l'écrivain Éric Orsenna ce soir. Et au moment de lui poser quelques questions sur son dernier ouvrage, Briser en nous la mer gelée, je vous avoue ma plus grande peur. Qu'Evaroc intervienne et que, partant, l'interview bascule dans le mais surréalisme. Non. Dans le petit milieu du journalistique, on appelle ça le précédent Stéphane de Groot.
J'ai beaucoup de mal aussi à parler de ce livre parce que c'est mon premier ouvrage très personnel.
Oui, c'est la première fois que vous vous livrez dedans. Il y a...
Ah, joli, beau jeu de mots. Livré, livre de mots, tout ça.
Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne comprends pas. Parce qu'on est...
Laissons vivre le moment en tout cas.
Là, c'est le début ou la fin de la phrase ? Je ne sais pas.
On ne sait pas par où ça commence, on ne sait pas par où ça finit.
Ça fuse.
Ah ouais ? Même moi.
Éric Orsenna.
Si, c'était drôle.
Oui, oui, c'était drôle. Mais maintenant est venu le moment de vous taire. Éric Orsenna, écrivain bien sûr, mais écrivain engagé. Vous avez par exemple participé avec l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, à l'élaboration d'un rapport sur les bibliothèques en France. Quelles mesures ont été prises au lendemain de ce travail ? Est-ce que c'est satisfaisant ?
Eh bien, écoutez, la plupart des rapports aboutissent à la poubelle.
Exactement.
Alors que ce rapport a permis d'ouvrir plus. On a pu ouvrir sur une zone qui donne la possibilité à tous ceux qui habitent dans cet endroit-là de la France, c'est-à-dire 9 millions de personnes. On a ouvert les bibliothèques et les médiathèques de plus de 8 heures. De temps en temps, c'est le soir, de temps en temps, c'est le dimanche, en fonction des choix de chacun, en fonction des saisons, premièrement. Et deuxièmement, les deux tiers de tous ces appuis ont été pour les zones les plus éloignées, c'est-à-dire pas les grandes villes. Et donc ça, c'est passionnant. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé, et c'est en train, une formation des bibliothécaires. Parce que les bibliothèques ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est pas simplement des lieux de patrimoine où on donne des livres, simplement, c'est des lieux d'accueil. Donc, vous avez pas seulement le livre,
il faut être
guidé, mais c'est des lieux de vie. Et c'est exactement le thème de cette émission, c'est-à-dire donner plus de vie et faire plus comprendre. Donc il y a des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons humaines. La plupart du temps dans des villes un peu perdues, le seul endroit allumé, le seul endroit de chaleur, le seul endroit où se rencontrent les générations, c'est justement les médiathèques.
Mais il y a chiffres là-dessus, il y a du monde dans les bibliothèques aujourd'hui.
Mais évidemment,
parce que...
il y a du monde dans les
bibliothèques. Il y a des jeunes.
Mais évidemment, c'est justement ça. Alors, on me dit, mais de toute façon, vous, la culture, vous en foutez, ce qui vous intéresse, c'est juste l'animation. Pas du tout. On commence par, c'est vrai, des jeux électroniques qui viennent, et puis, et tiens, et pourquoi pas ? Et pourquoi tu prendrais pas ce livre-là ? Vous savez, il y a deux mots dans ma vie, si on peut dire, c'est qu'il y a un mot qui est insupportable, c'est le mot « c'est pas pour moi ». Le livre, c'est pas pour moi. La danse classique, c'est pas pour moi. La musique, c'est pas pour moi. Connaître les animaux, c'est pas pour moi. Ce « c'est pas pour moi », il faut le rayer. Dès que vous voyez le « c'est pas pour moi », vous répondez par la phrase positive, qui est de dire pourquoi pas. Pourquoi pas ? Donc, vous prenez, vous accueillez un jeune, vous lui dites, bon, les lecteurs, et si tu essayais de lire, pourquoi pas ?
Ce que vous nous dites, Eric Orsena, c'est que votre curiosité, qui est à ta vie, qu'en tout cas, est consubstantielle à votre être, beaucoup de mots compliqués pour ne pas dire grand-chose finalement.
Vous êtes très curieux,
cette
quoi.
Curiosité, elle s'apprend. On peut apprendre la curiosité, on peut devenir curieux quand on n'est pas naturellement.
Et non, oui et non, mais vous savez, c'est l'origine du mot. Et là, je prends mon maître en terminologie, Jean Blacroix. C'est l'origine du mot. Le mot curiosité vient du latin cura, qui veut dire cure, comme dans curatif. Donc, le curieux est celui qui prend soin du monde. Donc, rien n'est pire que cette phrase, la curiosité est un vilain défaut. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'indifférence qui est une horreur. La curiosité. Et donc, dire simplement à la personne qu'on aime ou qu'on a en face de soi, mais comment ça va ? Et écouter la réponse.
Oui, souvent, on n'écoute pas la réponse. C'est moi, souvent, je leur demande comment ça va, mais je suis déjà parti.
C'est ça l'affaire. C'est le deuxième temps. C'est écouter la réponse. Donc, la curiosité, c'est un propre d'humanité, simplement.
En plus de la politique, tous les 10 ans, il sort un roman d'amour. Le dernier s'intitule « Briser en nous la mer gelée ». Eric Orsena est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, chers auditeurs, je vous connais par cœur. Avec tous ces menus de confinement à préparer, quand vous vous retrouvez devant votre four, vous êtes à peu près aussi inspiré qu'Eva Rock devant l'œuvre complète de Schopenhauer. Oh là là, heureusement, Delice in Extremis arrive. Tenez, reniflez. Jérôme, vous sentez ?
Le Roquefort.
Oh. Non, c'est Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui arrive pour votre recette de dernière minute. Ça sera juste après Steve Miller Band, The Joker, sur Europe 1. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, no, baby, no, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and Joker, c'était Steve Miller Band sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Alliés culture, humour et même chaque soir vers 6h moins le quart, gastronomie, telle est la mission que nous nous sommes fixés dans l'équipe est sauvage. Éric Orsenna, je vous présente celui qui chaque soir fait rimer gourmandise et culture. Puisqu'il ne se contente jamais de nous livrer une simple recette, ce qui est passionnant avec ce gourmet à l'érudition incomparable, c'est que chacune de ces recettes est accompagnée d'une histoire de plat. Un récit d'une précision toujours épatante.
Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps.
Oh là, oui, Éric Orsenna, je ne vous cache pas que parfois on se dit...
Et c'est vraiment pas casser le cul.
Mais on l'aime quand même. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Éric Orsenna, je suis vraiment très impressionné d'être là. Alors évidemment, bon, académicien, Goncourt, très bien ça... Mais surtout
dans le revers de la main.
Membre du club des 100, ce club de gourmands de fine fourchette, membre de l'Académie du vin de France. Là, ça force vraiment mon respect. Et je crois même ancien, chevalier du Tastevin.
Et absolument, et ancien critique gastronomique chez Gomio.
Ben voilà,
regardez. Car ma grand-mère était lyonnaise.
Ah ouais.
Donc j'ai été élevé, comme dit mon maître en terminologie, Jérôme Lacroix, j'ai été élevé au cul des pianos. Et j'ai travaillé avec Saint-Dorens.
Voilà, et vous avez préfacé plusieurs livres depuis, dont celui de Frédéric, de mon ami Frédéric Simonin, tout à fait récemment.
Maître, magnifique. Bon. Alors, avec lui. J'étais hier à une cérémonie que j'adore pour remettre les prix des meilleurs ouvriers de France.
Voilà, ça c'est beau.
C'est-à-dire dans tous les domaines, l'excellence. Il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers. Simplement, il faut être bon dans ce qu'on fait, c'est tout. Et dans ce qu'on mange aussi.
Pouls, tâchez d'être bon.
Ah bah oui, alors aujourd'hui, je vous offre une recette qui, je l'espère, va faire vibrer un petit peu la corde de votre enfance. On va parler de bœuf carotte. Et je crois que vous avez une passion pour ce plat.
Ah oui, absolument.
C'est qu'on appelait
autrement bœuf mode.
Oui.
Bœuf mode.
Et pour faire un petit peu d'étymologie et rebondir à la chronique de Jérôme, les bœufs carottes, ce sont aussi, c'est ce qu'on appelle la police des polices.
Mais oui, mais pourquoi?
Ah ben bah voilà pourquoi.
Pourquoi
c'est ce qu'on appelle la brutalité de la cuisine.
Parce qu'on dit que lorsque les policiers sont confrontés à l'inspection générale, ils les font mijoter longuement comme un bœuf carotte.
Ça vient de là.
Vous voyez, aujourd'hui, on aura vraiment appris beaucoup de choses.
Vive la langue, la langue est vivante. Alors, et ça donne faim d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
On approche du dîner.
On commence à avoir faim.
On approche du dîner.
Ben, une petite recette de bœuf carotte alors.
Allez-y.
Tout d'abord, on va choisir les morceaux de bœuf. Moi, je mets de la joue, du paleron. Peut-être un petit morceau de gîte aussi.
Oui.
Il nous faut des carottes, évidemment, on est en pleine saison. Il nous faut un oignon, un peu de vin blanc.
Ah bah toujours. Et toujours. Vous prenez quoi comme vin blanc?
Alors, bon, on ne va pas prendre le meilleur vin blanc de la cave.
Non, mais quand même.
Mais on pourrait prendre un petit bourgogne tout simple.
Un petit aligoté, comme
ça. Oui, par exemple.
Il n'y a rien de meilleur pour libérer que l'aligoté.
Et puis, de toute façon, il faut mettre un vin... quand on cuisine avec du vin, il faut que le vin soit quand même assez bon, parce que c'est le goût de la sauce. Il nous faut un oignon aussi. Donc, on va faire revenir nos morceaux de viande dans un petit peu de matière grasse. Avec l'oignon, on va faire fondre tout ça. On va rapidement faire revenir les carottes aussi qu'on aura coupées en morceaux. Mais ensuite, on va ressortir les carottes parce qu'elles ne doivent pas cuire aussi longtemps que la viande. On va rajouter notre vin blanc, un peu d'eau ou un peu de bouillon de volaille si on a.
Mais comment vous en mettez le vin blanc? Vous mettez toute la bouteille?
Ah non, 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 non.
Oh, malheureux.
Il n'y aurait plus rien à boire.
C'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas mettre un vin nul comme ça dedans.
Le reste de la bouteille, vous la buvez pendant que le bœuf carotte mijote, parce qu'il doit quand même mijoter pendant 2 ou 3 heures.
Ah oui, donc c'est une recette express, pas trop express.
Il faut écouter le mijotement. Vous tendez l'oreille. Et vous écoutez le mijoteur.
Blop, 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 dans la casserole. Blop, blop, blop.
On fait ça bien tous les
magnifique.
Deux. D'ailleurs, on va faire un duo.
Bœuf, carotte. Et donc, une fois que ça a mijoté, un quart d'heure, 20 minutes avant de servir, vous allez remettre vos carottes. Parce que les carottes cuisent assez vite. Et puis, il n'y a plus qu'à passer à table et aller chercher une autre bouteille. Parce que, bien évidemment, celle qu'on a ouverte pour en mettre dans les. Elle est vide. On va chercher autre chose.
Le désespoir. Elle est vide, alors vite.
Est-ce que vous ne rajoutez pas, parce que moi, je rajoute ça vers la fin, parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop quand même. Et au fond, une expression que mon maître en terminologie, Jérôme Lacroix, pourrait expliquer, et qui résume au fond l'équipe de l'équipe Sauvage, qui s'appelle le bouquet garni.
Ah oui, un petit bouquet garni pendant la cuisson.
Parce qu'un brin de thym, ça ne fait pas mal.
Non, ça ne va pas parfumer la sauce.
Le thym.
Je suis tout à fait d'accord.
D'ailleurs, et on pourrait demander d'ailleurs aux auditeurs de nous envoyer l'orthographe du mot thym.
Oula,
et ceux qui gagnent auront, je ne sais pas, 15 jours en Tunisie.
Oui. 15 jours en Tunisie. Mais vous êtes sur Europe 1, et quand ça n'en a pas les moyens, un dîner avec Olivier Pouls tout au plus.
Avec les audiences qui montent, vous allez
aller.
Bientôt, j'irai chercher une belle bouteille de Beaujolais pour accompagner notre bœuf carotte.
Un morgon. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedi dans la tête des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Boule au ventre, regards assassins, la tension est maximale dans le studio Coluche alors que nous allons bientôt découvrir qui a été élu chroniqueur Europe 1 du jour. Il reste encore quelques minutes à notre invité Eric Orsenna pour faire un choix. Je suppose, Eric, que la tâche n'est pas simple.
Mais j'en ai rien à foutre.
Oui, non, ça, c'est l'émotion qui vous gagne. Vous êtes comme nous, Eric, et comme tout un chacun, extrêmement tendu à l'approche du résultat. La grande finale arrive juste après MC Solar, Géopoétique sur Europe 1.
Commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse cul sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, visage angélique, arme automatique, monde hypnotique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, Ayep ou vol comme Bob au Comor.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif. Y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, arme automatique, monde hypnotique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras. En lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes. On dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique. J'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen. Il lâchait des volutes accompagnées par des Yémen.
Atlantique, euro-asiatique, pays.
Géopoétique, c'était M6 Solar sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Qui sera couronné chroniqueur du jour? Qui sera adoubé par notre invité académicien? Qui, en revanche, repartira chez lui avec le goût amer de la défaite et devra essuyer les piques acerbes de ses collègues qui, découvrant qu'il est dernier, lâcheront une horreur du style...
C'est pour ça qu'ils t'ont pas pris à RFM.
Oui, il y aura des déçus. C'est l'heure du dénouement. Qui va remporter la margoulette? C'est l'heure du kit ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour défendre leur dossier devant notre invité. Jérôme Lacroix, pourquoi diable faudrait-il voter pour vous?
Parce que je crois qu'on s'est trouvé avec Récorsena, qu'en pensez-vous? Partageons cet amour des mots de la langue française. Bon, voilà, tout est dit, je crois.
Tout est dit, je crois. Ça, il devient hautain maintenant. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? À part le fait que vous êtes bretonne, évidemment.
Oui, bah alors justement, moi j'ai deux arguments. C'est que, un, voyager écolo, c'est quand même un enjeu pour les générations à venir. Et puis deux, comme le dit un célèbre slogan touristique, la Bretagne, ça vous gagne.
Bravo ou pas, Eric Orsena, vous êtes gentil. Farah Kessri, pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Eh bien, comme Eric Orsena, moi je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de la nature. Et donc, voter pour moi, c'est voter pour la vie. Et si je pouvais rajouter un mot sur la Bretagne, en fait, mon premier grand amour était breton. Non, mais c'est vrai, en plus.
Ah là là, ils sont vraiment prêts à tout. Fred Bassi, pourquoi voter pour vous?
1917, déjà, film européen. Hein, ah oui, il faut le dire. Donc, naissance du jazz. Alors d'un côté le vieux monde où ça c'est la guerre, ça s'entretient. De l'autre le nouveau monde où un genre musical secret qui est né de la plus grande diaspora de l'histoire de l'humanité. C'est magnifique, il faut voter pour ça.
Et il faut voter pour vous. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ça a rarement été aussi serré, mais entre les quatre.
Tous les jours,
non, entre les quatre chroniqueurs. Oh, mais... Parfois c'est serré entre deux, mais là entre vous quatre, c'est très serré. Et c'est Farah qui ouvre son compteur de points.
Oh là là, déjà deux premiers points pour Farah Kessri, notre nouvelle recrue. Vous le savez, ici c'est l'invité d'honneur qui a le dernier mot, mais j'ai quand même un petit point à donner. Oui, j'ai failli oublier que moi-même, je donnais un point. C'est très dur aujourd'hui, c'est vraiment très très dur. Alors aujourd'hui, je vais donner mes points à Jérôme Lacroix. Car il nous a appris pas mal d'expressions et ce soir, je ne vais pas me priver pour les refourguer au dîner, que je le savais depuis longtemps. Mais vous le savez ici, nous savons recevoir, c'est l'invité qui a le dernier mot, Eric Orsena, qui selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour. 4 CDI sont entre vos bras. Non, pas 4 parce que Farah n'est pas encore en CDI. Non. Elle est en période d'essai, ce qui est pire.
Je vais vous dire, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que j'ai appris énormément, j'ai beaucoup ri. Et dans les chroniques, quand on peut voir un peu ce qui se passe dans la concurrence, si le rire est le propre de l'homme, comme disait Rabelais, le ricanement est le propre des aigris, comme on dit dans le taf. Et donc, ici, on rit sans aigritude, comme dirait Feu, l'ambassadrice des pôles. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Je vais voter pour Farah parce qu'elle nous rappelle, en tout cas, elle me rappelle à moi, ma part animale qui, l'âge venant, a besoin d'être dopée régulièrement.
Mesdames et messieurs, c'est Farah Kessri qui remporte l'équipe est sauvage. Eric Orsena va la couronner lui-même. Ça, c'est magnifique. Eric Orsena qui était donc notre invité pour son dernier roman Brisé en nous, la mer gelée chez Gallimard. Merci infiniment, Eric. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Faire des câlins poussés entre adultes très consentants.
Oui, ben, on va se retrouver tous ensemble après l'émission. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Farah Kessri, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix, Fred Goati et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage. Reviens demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe et sauvage. Merci pour cette nouvelle semaine passée ensemble dès demain 16h. Les meilleurs moments. Et puis on se retrouve évidemment lundi. Avec grand plaisir d'ailleurs. Salut à tous, bon week-end.